France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On parle souvent dans Les pieds sur terre de ceux qui manquent d'argent, des fins de mois difficiles, des salaires qui ne bougent pas, des emplois précaires, des loisirs inexistants et des sacrifices. Des aides qui s'amenuisent, comme la durée des indemnisations chômage, par exemple. Des carences et des crédits, de l'intermittence et des sans-abri de celles et ceux, en bref, qui représentent l'écrasante majorité des Français et des terriens en général. On raconte comment ils font, comment ils s'en sortent et ce à quoi ils rêvent, un monde plus juste ou juste plus d'argent pour eux-mêmes. Dans cette série, au contraire, on parle de ces presque 3 millions de Français tout de même, même si c'est une toute petite minorité, qui sont millionnaires, c'est-à-dire qui possèdent, sous une forme ou une autre, plus d'un million. La France est désormais le troisième pays au monde, derrière les États-Unis et la Chine, qui abrite le plus de millionnaires, selon le Global Wealth Report de 2025. Mais on ne s'intéresse pas dans cette série à ceux qui se sont contentés de naître, d'hériter ou de faire de riches alliances, mais à ceux qui partent de rien ou de pas grand-chose et font fortune rapidement. Les exceptions qui confirment la règle. Et alors, on cherche aussi à comprendre qui ils sont, comment ils font avec leur argent et à quoi ils rêvent. Après Marvin pour le premier épisode, voici Margot par Olivia Muller.
Je suis Margot Klein, 36 ans. Je suis chef d'entreprise depuis 10 ans. À Lausanne, en Suisse. J'ai une sœur de 3 ans et demi de moins que moi. Je suis l'aînée et j'ai grandi dans un tout petit village de 5-6 000 habitants qui s'appelle Seis, dans le sud de la France. Et il est surtout connu, ce village, parce qu'il y a deux prisons. Il y a plus de prisonniers et de vaches que d'habitants. Alors mon père, il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans, à l'époque. Aucun diplôme. Et il nous a vraiment, avec ma sœur, répété, il faut travailler dur, l'argent ça pousse pas sur les arbres, on n'est pas Rothschild, t'as cru que c'était Versailles ici, enfin, toutes les phrases comme ça. Donc tout ce qu'on voulait avec ma sœur, ça se mérite. Donc on avait une tenue par an pour aller à l'école, mais il fallait la mériter. Et son autre mantra, entre guillemets, c'était il faut faire des études. Travailler dur, faire des études, ouais. Moi, j'avais des facilités à l'école. J'avais une bonne mémoire, je comprenais vite. Ça m'intéressait pas trop, mais je voyais que je faisais pas grand-chose et que j'avais des bonnes notes. Donc, je sais pas, dès l'âge de 13-14 ans, il m'a dit « Toi, tu vas faire bac plus 5. » Voilà, ça, c'est mon père. Et ma mère, c'était plutôt « Si tu peux faire mieux, fais mieux. » Donc, je pouvais avoir un 15, 16 sur 20. Ok, ouais, mais pourquoi t'as pas 18, 19, 20 ? Donc c'était une enfance, dans le fond, joyeuse, mais finalement, il n'y avait pas d'insouciance de « Ah, je suis enfant, je fais n'importe quoi ». Non, non, non. Tout de suite, j'ai compris les enjeux, en fait. En fait, j'ai pensé à l'argent très jeune, parce que j'ai compris très jeune, dans ma famille, qu'on n'en avait pas. Quand je disais « On peut faire ça, on n'a pas d'argent », c'était une réponse. Ma mère, c'était ça. « On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent ». Je pense que c'est la phrase que j'ai le plus entendue. On n'a pas d'argent. Je suis partie de chez moi très jeune. J'avais 17 ans. J'avais envie de vivre mes propres aventures. Puis il n'y avait pas un bon climat chez moi. Mes parents, ils ont divorcé. C'était très compliqué. Et comme j'ai eu mon bac à 17 ans, mes parents m'ont dit « Ok, bon. » Va vivre chez une amie, mais on te donne pas d'argent. Donc je suis partie avec des habits, mes affaires de cours, je rentrais du coup à l'université, à Toulouse. C'était vraiment compliqué. J'avais rien, hein. J'avais un stylo, un cahier, je sais même pas si j'avais un cahier les premiers temps. J'étais un peu une SDF des amis, quoi. Enfin, c'était, j'avais pas de domicile. Je vivais dans un sac de sport Adidas, quoi. C'était un peu... Ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, c'est là où j'ai découvert le manque d'argent et le manque de sécurité et le manque de repères. Et en même temps, je l'avais choisi. J'ai ma grand-mère qui a pitié pour moi, qui me fait des courses en cachette, qui vient avec des sacs de courses parce que j'habitais à Toulouse. Donc, elle prend le bus, le métro, elle marche, elle m'emmène des pâtes, du riz, des steaks hachés surgelés, l'huile d'olive, des tomates. Elle me donnait un petit billet et je vivais, mais peut-être un mois, quoi. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon permis et j'ai réussi à décrocher un job. Le seul job qu'on a bien voulu me donner, c'était équipière à McDo. Donc je travaillais de 18h à minuit, 1h tous les soirs, en plus de mes études. Donc là, j'ai réussi à avoir un appartement, j'avais ma voiture, ça commençait à se stabiliser. Je gagnais entre 400 et 700 euros par mois, c'était rien de fou, mais ça allait. Quand je travaille à McDonald's, je déteste. Je découvre que je ne suis pas du tout faite pour le monde du salariat. En fait, d'être vraiment traitée comme le bas de l'échelle, c'était très difficile pour moi. Donc j'ai découvert que je n'aimais pas les ordres, que je n'aimais pas tellement l'autorité. Bon, en fait, j'étais tellement rebelle que McDo voulait me virer à un moment donné. Et ils avaient raison. Vraiment, maintenant, je suis patron, je me serais virée. Parce que je répondais aux clients, je répondais à mes supérieurs. Non, vraiment, j'étais pas l'employé modèle, vraiment très pénible. Mais ils veulent McDo, ils ont une politique de on vire personne, parce que sinon les gens viennent, se font virer, ont le chômage. Du coup, ils m'ont puni, ils m'ont mis au frites, c'est un poste horrible pour ceux qui travaillent chez McDo, pendant 4, 5, 6 mois, en se disant, elle va être tellement dégoûtée, elle va démissionner. Alors, aux frites, il y a 3 bacs d'huile, ou 6 en fonction du restaurant. Vous avez la station frites, un miroir, des lampes à chaleur pendant 4 heures. Vous voyez personne, vous parlez à personne. Vous vous brûlez parce que l'huile, enfin voilà. Tous les soirs, pendant 6 mois. C'est particulier. Du coup, soit on devient fou et on démissionne. Et je me suis dit, non, je ne peux pas démissionner. J'avais pas le choix. Du coup, ce que j'ai trouvé, c'est que dans ma tête, je me parlais pendant les 4 heures en me disant, tous les gens qui t'ont mis là, ils vont bien voir. Tu vas devenir bien plus riche qu'eux, tu vas revenir et racheter le McDo. En fait, des phrases vraiment naïves pour me motiver, comme si j'essayais de forcer la colère pour me maintenir en fait en vie. Je me répétais ça, mais vraiment en boucle. Et un jour, il y a les McDonald's, en fait, il y a des franchisés, des patrons de chaque McDonald's. Un jour, ils sont venus, ils arrivent avec un 4x4 BMW, ils ont l'air riches, ils sont bronzés, ils reviennent de vacances, enfin... Ils étaient beaux, ils étaient bien habillés. Nous, on était avec nos Charlottes. Enfin bref, ça faisait... Et on me dit, c'est eux les patrons, ils sont millionnaires. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, OK, eh ben, ça fait sens. Je vais devenir franchisé McDonald's. Et après, les conditions de travail à McDo, elles sont aussi bonnes que possible. Mais je veux dire, vous récurez des bouches d'égout, vous êtes devant des grills, vous puez la frite. Enfin bref, pendant 3 ans... Je vais à l'université, je vais à McDo, je rentre, je dors. Donc c'était vraiment une boucle. La journée sans fin, c'était ça. Finalement, je finis par être diplômée de licence de mon IUT. Je continue chez McDo et surtout, il y a quelque chose qui va être déclencheur. C'est que lors d'une sortie dans Toulouse, je rencontre quelqu'un qui me dit « Mais moi, je suis responsable de la section Erasmus de l'université machin en Norvège. Tu sais que tu es éligible pour un master ?» Et je lui dis « Je pense pas, mes notes, elles sont pas bonnes. Je travaille vraiment trop à côté. » Et il me dit « Non, on vient d'ouvrir la Norvège. Personne postule en Norvège. Tu devrais postuler. » Les cours sont en anglais, mais je ne parlais pas anglais. Je disais « My name is Margot, Brian is in the kitchen ». Il me dit « En plus, tu peux avoir une bourse ». Et je ne revois plus jamais cette personne. Donc je postule, je harcèle la dame. Bref, je réussis à décrocher l'Erasmus dans l'une des universités les plus prestigieuses de Norvège. Et je ne parlais pas anglais, Donc les premiers mois sont hilarants. Et finalement, j'apprends l'anglais en 3 mois. Donc c'est une des meilleures années que je passe. Et là, du coup, je postule à des universités à Paris. Et je suis prise. Je commence à gagner de l'argent déjà. Je deviens consultante à la Défense. Ils me prennent en CDI. Donc j'ai le 13e mois, la Navigo, les tickets resto, 2 200 € en CDI, c'est la consécration. Bon, là, je me dis, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Sauf que, je sais pas, au bout de 6 mois de CDI, je me dis, ma vie, ça va être ça. Jusqu'à 60 ans, je vais faire ça. Et c'est bon, j'ai compris les enjeux, les problématiques, donc je commence à m'ennuyer. Je demande les salaires de mes supérieurs. Ma supérieure, elle gagne pas tant que ça. Je me dis, waouh. Je travaille de 8h à 19h. Si je pars à 17h, on me dit, hey, t'as pris ton après-midi? Et je me dis, non. En fait, jusqu'à 60 ans, je vais avoir Jean-Claude là, qui va valider mes vacances. C'est pas possible. J'ai que 5 vacances par an, 2 jours par semaine. Et du coup, je commence à me réveiller, quoi. Et puis là, j'ai pris énormément de poids. Je suis au seuil de l'obésité. J'ai pas d'argent, je mange mal. Le week-end, je grignote. Je pense qu'il y avait un mal-être. En fait, le déclic, c'est que je peux plus m'habiller chez Zara. Je prends la dernière taille chez les femmes. Et là, je me dis, il va falloir faire quelque chose. Je suis essoufflée quand je monte les escaliers. Donc, je commence à perdre du poids. Je perds 20 kilos en 6 mois. Je me muscle. Bien sûr, je reprends confiance en moi. Je me trouve belle. Et j'ai un copain qui me dit, tu devrais faire un blog, ça serait rigolo. Tu racontes, voici comment j'ai perdu du poids. Et du coup, je fais ça. Je crée un blog sur WordPress à l'époque. Juste des articles, des photos. Donc, je fais ça sur ma pause déjeuner. Et voilà. Et je l'envoie comme une blague. Voici mon blog. C'était vraiment, je raconte ma vie. Ensuite, un copain me dit, mais t'as combien de lecteurs ? J'en sais rien. Il me dit, oh, on va installer Google Analytics et tout. Donc, il m'installe Google Analytics. En fait, je vois que j'ai 200, 300 000 lecteurs sur mon blog chaque mois. Et il me dit, mais c'est incroyable. Il me dit, tu devrais vendre un e-book aux États-Unis, ils font ça. Et puis là, je lance mon e-book à 17 € auprès de mes abonnés à ma mailing list. Et je vends pour 700 € de livres. Et je me souviens, je reviens à la pause déjeuner, je check mon PayPal et je me dis, waouh. Pour moi, 700 €, c'était dingue. C'était un tiers de mon salaire. Et puis, j'ai fait 7 000 € finalement en 2014. Et là, je me souviens, c'était là le déclic. Là, je me suis dit, attends, je peux faire quelque chose que j'aime, raconter ce que je vis. Et du coup, j'ai commencé par vendre le livre. Ensuite, j'ai vendu des formations sur ma perte de poids. Voici comment j'ai fait, sous forme de vidéo. Et ça cartonne. Et 2015, je fais 35 000 € de chiffre d'affaires. À ce moment-là, je me fais repérer par quelqu'un qui a un business en ligne, rien à voir dans l'immobilier, qui me dit « je veux que tu fasses ce que tu as fait pour ton blog, mais pour mon business ». Finalement, on a fait 2 lancements et des millions. Alors, c'est pas moi qui les encaisse, c'est elle. Mais finalement, ça me donne aussi confiance parce que je savais pas que je pouvais générer des millions. Et puis moi, j'avais jamais vu autant d'argent arriver sur un compte en banque. Je savais même pas que c'était possible, enfin. Et donc là, je me dis, waouh, ok, c'est pas si compliqué, finalement, avec les compétences que j'ai. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas pour moi? Et en début 2016, j'ai commencé à vendre ces services pour moi, c'est-à-dire à essayer d'avoir d'autres clients en plus d'elle. Donc j'étais consultante en marketing pour les entreprises qui veulent lancer leur business en ligne ou leurs produits en ligne. Je savais en gros quel bouton tourner pour générer plus de ventes, schématiquement en parlant. Mes premiers clients, ils ont eu des grands résultats. Le chiffre d'affaires augmente chaque année. Jusqu'en 2018, où en fait, je me rends compte que je viens de générer un peu plus d'1 million en une année. Donc j'ai entre 28 et 29 ans. Donc j'ai 1 million sur mon compte, et là je deviens officiellement millionnaire, alors ça change absolument rien à ma vie au départ, sauf que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé chez McDonald's finalement. En fait, je ne réalise pas du tout que je deviens millionnaire parce que j'ai toujours très peur de perdre l'argent. Donc je me connectais à l'époque tous les jours sur mon compte en banque parce que j'avais peur que l'argent y disparaisse. Et du coup, les premières années où j'ai ce million sur le compte, il n'y a rien qui change trop. Hein. Donc je ne dépense rien, je ne m'achète pas d'habits, je ne me fais pas de plaisir. J'avais le même short depuis 10 ans, les mêmes chaussures depuis 10 ans. J'avais les t-shirts Uniqlo là, avec des trous, vraiment. Oui, j'étais millionnaire. Oui, j'avais jusqu'à 2 millions sur mon compte, mais ça servait un peu à rien, quoi. Les gens comprennent pas, enfin, mais ma famille, en fait, mais fais-toi plaisir, enfin, repose-toi, travaille un peu moins, parce que je travaille 12 heures par jour, même des fois beaucoup plus, tous les jours. Il y a peut-être le dimanche ou le samedi où je faisais une pause, mais c'est tous les jours, non-stop. Je me levais à 6 heures, parfois même plus tôt, et je fais des rendez-vous toute la journée, des rendez-vous. Je terminais à 18 heures, j'allais à la boxe, je rentrais de la boxe, je mangeais, je dormais, et on repartait. Et à l'époque, j'étais mariée, donc ma partenaire me dit « Mais t'es folle, ça va pas, profite. » Mes amis, qui sont aussi entrepreneurs, me disent « Mais nous, on se fait beaucoup plus plaisir, on gagne moins que toi, mais Margot, j'économisais tout, j'investissais tout. » Et j'avais toujours pas la sécurité, ça m'a beaucoup choquée. Moi, je me suis dit « Quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais pouvoir me sentir en sécurité, me sentir satisfaite. Ok, j'y suis arrivée, bravo Margot, tu seras plus jamais pauvre. » Non, j'ai vu que ça ne marchait pas. Et je me sentais toujours pas fière de moi, quoi. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être aller voir une thérapeute, un psy, et parler de tout ça, parce que visiblement, ça marche pas. Donc j'ai fait ça aussi. Alors, je me fais plus plaisir sur les voyages. C'est vrai qu'il y a une différence où quand je pars en voyage, je prends un hôtel de luxe, je voyage en business class. Mais quand je dépense, j'ai peur. Une fois que je suis dedans, je prends plaisir, mais voilà. Je rentrais dans l'avion, je passais devant les gens. J'avais trop envie d'être en business class et de regarder les gens qui allaient en éco. Je m'autorisais les voyages et la business class parce que j'ai toujours aimé voyager. Et quand j'étais petite, je pouvais pas voyager. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose de revanche, de... Je pense que j'en ai souffert, en fait, du manque d'argent quand je suis partie de chez moi à 17 ans. Maintenant, j'ai accepté que j'aurais jamais ce sentiment de sécurité plein. Et quand je vois, j'ai des amis qui sont nés riches. Je veux dire, on est en Suisse, il y a plein de gens riches qui ont fait des écoles à 120 000 francs suisses l'année, toute leur scolarité. Ils sont très riches. Ils n'ont jamais ça, eux. Eux, ils pensent à faire des actions humanitaires, partir en vacances à Saint-Tropez et à Villars. Je vois mes amis qui sont nés plus fortunés, ils ne pensent jamais à l'argent. Et la richesse, c'est de ne jamais parler d'argent. J'ai vu ça. C'est même pas un sujet. Ils se demandent pas combien ça coûte les vacances, combien le restaurant coûte. Ils donnent des pourboires, ils comptent pas. J'ai vu que la richesse, c'était l'absence de soucis sur l'argent. Il y a d'autres problèmes, c'est des gens qui ont des problèmes, hein. On sous-estime vraiment leurs problèmes. Eux, c'est beaucoup de problèmes avec leur société, beaucoup de problèmes de personnel, de trahison, beaucoup de problèmes globalement juridiques, administratifs, fiscaux. C'est des gens qui font des milliards, généralement ils ont 1000, 1200 salariés, des sites un peu partout dans le monde. C'est des problèmes multipliés par le nombre de choses qu'ils doivent gérer. Donc c'est des gens qui sont habitués à gérer des problèmes au quotidien. Et puis il y a eu le Covid et on s'est retrouvés enfermés. Et là, je me suis dit, mais j'ai jamais profité de mon argent. J'ai travaillé tout ça et j'ai rien fait. Du coup, ça m'a rendu hyper triste et je me suis dit, ok, c'est quoi tes rêves d'enfant ? Et tout de suite, ce que je voulais enfant, Je voulais une Porsche cabriolet, 911. Il y avait un riche dans mon village, il avait une Porsche. Je veux m'acheter une Porsche. Tac, je vais chez Porsche à Lausanne. Je commande la Porsche cabriolet en plein Covid. Ils me la livrent et tout. Voilà. Donc ça commence. Tac, 161 000 francs. Plein Covid, je vais chez Rolex. Je m'achète une Rolex. Donc c'est la Daytona Oyster Flex en or jaune. J'ai dû payer 27 000 francs. Je leur dis, je veux la Submariner. Commandez-la moi. Bam, 8 000. Enfin bref, je m'achète une en alligator qui est discontinuée, bam, 15 000. Voilà, je pète un plomb, mais vraiment. Je voulais montrer aux gens que j'étais plus pauvre. J'ai regardé les signes extérieurs de richesse classiques. Donc pour moi, le riche, il avait une Rolex, il avait une belle voiture. Il faisait des rallyes, je faisais des rallyes, fume des cigares très chers. Je commence à fumer le cigare alors que je ne fume pas, d'accord ? Qu'on s'entende. Maintenant, j'ai de la tendresse pour cette Margot, en fait, où je me dis, c'était mignon. C'était vraiment, je voulais prouver, et aussi je voulais voir ce que ça fait de jouer à la riche. Donc je vais dans les Cinque Terres ou à Portofino. Je mange sur le port devant les yachts, j'achète des huîtres. Je me suis mise à manger des huîtres parce que c'était chic, quoi. Donc, alors les huîtres, ça passait parce que je mettais du citron échalote, mais pas plus que ça. Je mange plus d'huîtres maintenant que je suis redevenue moi-même. C'est hilarant. D'ailleurs, mes parents, c'est une blague parce qu'à Noël, ils me disent « Tu manges toujours des huîtres ou c'est bon ?» J'achetais des châteaux Yquem à 1200 euros. Alors que j'aime pas le vin. Enfin, genre, je bois très peu. Quand je bois, j'aime boire du champagne. Voilà, le champagne, c'est mon truc. Et en fait, ça n'a pas produit l'effet que je voulais. Ça me rendait pas cool. Ça me rendait juste nul. C'était ridicule. En plus, c'était pas mes valeurs. Mes valeurs, c'est juste tu travailles, t'es quelqu'un de bien, t'essayes d'être utile pour la société, t'apportes de la valeur, être libre, être discrète, quoi. Je suis quand même introvertie, donc. J'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas attirer l'attention. C'est bizarre pour quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet, mais dans ma vie de tous les jours, je m'habille en noir. Je suis très discrète, quoi. ...2021-2022, c'est des années de folie. Surtout quand on sort du Covid, tout le monde veut sortir, donc je suis invitée à toutes les conférences possibles et inimaginables. En 2022, je me souviens, à la fin de l'année, avoir regardé mon agenda, j'ai pas été chez moi plus de 2 jours consécutifs. Donc j'ai fait des conférences sur mon parcours, sur comment j'ai créé mes business en ligne, mon expertise de marketing. Et je gagne énormément d'argent. D'ailleurs, 2022, c'est une année record, enfin en chiffre d'affaires en tout cas. Je gagne quelque chose comme 3 millions, 3 millions 6. Donc avec les marges du business en ligne, vous avez 80% de marge. Donc il y avait quand même des gros bénéfices. Alors moi, j'ai toujours du mal à utiliser le terme « riche », parce que pour moi, ça ne veut rien dire. C'est tellement subjectif, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Riche en France, c'est pas riche en Suisse, c'est pas riche en Inde, c'est pas riche au Maroc. Pour moi, riche, pauvre, c'est vraiment vulgaire comme terme, et c'est des projections. Pour moi, millionnaire, c'est factuel. Millionnaire, j'ai 1 million minimum, ou multimillionnaire, j'ai plusieurs millions. Moi, je suis quelqu'un de très factuel. Soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est pas. Alors, il y a des nuances dans la vie, il y a des fois c'est gris, mais sur l'argent en l'occurrence, non. Hein. Soit on l'a, soit on l'a pas. Donc mes amis étaient globalement millionnaires. Ils avaient le même train de vie que moi, les mêmes voitures que moi. On partait en vacances ensemble, on faisait les rallyes ensemble. Enfin, voilà quoi. Après ces 2 années où je dépense beaucoup, je m'achète un château en Suisse, sur les bords du lac Léman. Enfin, un appartement duplex dans un mini château rose, très luxe, du marbre partout, insonorisé, une terrasse de 300 mètres carrés, un sauna, jacuzzi, 4 millions d'euros, vraiment, je crois que c'était 16 000 francs le mètre carré. Oh, quelque chose de vraiment d'aberrant. Il n'y a aucun autre mot. Alors, sublime, hein. Vitre anti-effraction, safe room. Et quand j'achète ça, je me dis, qu'est-ce que tu fais, Margot ? Après avoir acheté ce château, je me dis, ok, et alors ? il n'y avait pas plus de sens, en fait. Et là, c'est vraiment... Après, il y a la chute, quoi. Et du coup, là, c'est un peu compliqué. Un an après avoir acheté le château, je fais une petite dépression, quand même. Je m'écroule, j'arrive plus à travailler, je fais plus rien, je déprime. Et puis, 2024, je me sépare de ma partenaire. Bah, 2024, je perds tout, en fait. Déjà, on avait créé plusieurs sociétés. Donc, il y a un énorme conflit, parce qu'on était aussi partenaires dans la vie, mais surtout, on était associés. Et en fait, en me séparant, je me rends compte qu'il y avait plein de petits astérix que j'avais pas vus dans les contrats, parce qu'on a fait ça vite pendant le Covid. Je venais d'arriver, je me suis pas méfiée. Du coup, je perds tout, quoi. Toutes les sociétés pour lesquelles je travaillais depuis 10 ans, et il y avait des millions sur les comptes en banque des sociétés. Donc, j'ai perdu des millions, en fait. J'ai plus accès à ma maison, parce que mon ex s'enferme dedans, change les serrures, appelle la police dès que je viens. Ça devient un film. Et donc, c'est très difficile 2024, où je me dis, mais c'est une blague. Donc, je passe du château rose au studio qu'une amie me prête. Et je me dis, OK, welcome back. Et le temps que je me reconstruise émotionnellement et que je retombe un peu sur mes pattes, je recrée une société. Et en 2025, je remonte tout et je parviens à régénérer plus d'un million de chiffre d'affaires, de ventes, quoi, en un an. Alors, je regarde plus mes comptes en banque, c'est bon. En plus, maintenant, j'ai une assistante privée, donc je fais même plus mes paiements moi-même. Je dois me connecter 2 fois par mois, quelque chose comme ça. Mais oui, je pense toujours à l'argent. Et je pense que ça sera comme ça toute ma vie. Alors, est-ce que l'argent me rend heureuse? Oui. Les gens qui disent le contraire, c'est faux. C'est toujours faux. L'argent, ça rend heureux, oui. Déjà, ça élimine beaucoup de problèmes. Et plus on a d'argent, plus notre puissance d'agir augmente. Bon, ben ça participe à notre bonheur. Et donc, on a plus de liberté, tout simplement. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est me lever à l'heure que je veux le matin, manger à l'heure que je veux, partir en vacances quand je veux, hors saison. Je suis libre.
C'était Millionnaire avant 30 ans avec aujourd'hui Margot, un reportage et une série signée Olivia Muller et réalisée aujourd'hui par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Margot Klein, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Mina Morel, notre stagiaire.